Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal avec Billy Yvonne Lutumba.
En début de ce journal, nous vous parlons de l'arrivée annoncée du président kenyan William Ruto ce dimanche, qui devra avoir demain lundi un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux parleront situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, intégration régionale et économie. Vous suivrez également un résumé de l'accord final qui a sanctionné la clôture ce dimanche de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une des principales décisions, la création d'un fonds pour financer les dégâts climatiques subis par les pays particulièrement vulnérables. Docteur Placide Ouello, directeur du programme d'élimination du choléra, intervient en fin de ce journal comme invité pour prodiguer quelques conseils sur le comportement et pratiques à observer pour faire face au choléra qui sévit certaines contrées du pays. Tout le plaisir est notre de partager avec vous ce moment d'information sur Radio Kapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Le président kenyan William Ruto est attendu ce dimanche à Kinshasa pour une visite officielle. Demain lundi, il est prévu un tête-à-tête avec son homologue Félix Tshisekedi de la RDC. Selon des sources de la présidence congolaise, les deux chefs d'État vont discuter du commerce, des investissements, de l'intégration régionale et de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où sont déployés depuis la semaine des soldats kenyans dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Rappelons que c'est le tout premier voyage de William Ruto en RDC depuis son investiture au mois de septembre dernier. Le dimanche passé, c'est son prédécesseur Uhuru Kenyatta qui a effectué le déplacement de Kinshasa en sa qualité de facilitateur du dialogue pour la paix à l'Est initié par la communauté des États de l'Afrique de l'Est et qui doit en principe démarrer ce lundi à Nairobi selon certaines sources. Parlons présentement de la situation sur place sous le théâtre des combats dans le Nord Kivu. Un calme relatif est observé cet après-midi sur les lignes des fronts dans le groupement Buhumba en territoire de Nyiragongo et sur l'axe Kiwanja-Ishasha dans le groupement Biza. Des sources concordantes renseignent que les tirs ont cessé dans l'après-midi de ce dimanche sur les deux lignes de front, notamment au niveau de trois antennes situées à 20 km de Goma, dans cette zone où se sont déroulés les combats à la mi-journée de ce dimanche. Les hostilités se sont étendues également à Kiseguru et Katuiguru dans le groupement de Binza. À l'heure qu'il est difficile d'avoir un bilan précis de ces affrontements. Jusqu'ici, l'armée n'a pas communiqué sur ce qui s'est passé pendant la journée de ce dimanche. En rapport avec la mobilisation lancée par le chef de l'État, le parti politique FPCN, Front pour un Congo Nouveau de Claude Nyamugabo, dénonce les velléités expansionnistes et criminelles du Rwanda qui, déclare-t-il, en soutenant en homme et en armes les terroristes du M23, a trahi la bonne foi du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, pourtant inscrit dans la logique de la paix et des relations de bon voisinage avec les pays frontaliers dès son arrivée au pouvoir. Le FPCN appelle ainsi à la mobilisation générale lancée par le président de la République à tous les Congolais et invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour définitivement décourager toute velléité d'agression de la RDC par ses ennemis jaloux de ses richesses. Ceci est contenu dans une déclaration publiée hier samedi 19 novembre. Le FPCN condamne par ailleurs le silence coupable et complice d'une partie de la communauté internationale face au génocide. Et un extrait de la déclaration du parti FPCN lu par son secrétaire général Vincent Ngoy.
Le Front pour un Congo Nouveau soutient les forces armées de la RDC. Les efforts diplomatiques appréciables menés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'encourage à ne ménager aucun effort pour doter la République démocratique du Congo d'une armée ultra dissuasive pour décourager toute éventuelle nouvelle aventure de ses voisins provocateurs. Le Front pour un Congo Nouveau appelle tous les Congolais à l'unité, la vigilance maximale face à cette lâche agression de notre pays, à ne pas céder au discours xénophobe afin de barrer la route à la politique d'auto-victimisation utilisée par l'agresseur pour s'attirer souvent la sympathie internationale. Le FPCN et son autorité morale, professeur Claude Nyamugabo-Bazibouye, appellent le M23 à la cessation immédiate des hostilités, à se rendre aux troupes loyalistes à défaut de se retirer sans condition des territoires occupés, seule option pour espérer faire entendre ses revendications au gouvernement congolais. Le FPCN met en garde le Rwanda et le rend entièrement responsable des milliers de morts en cours dans l'est de la République démocratique du Congo.
Après de longues et intenses négociations, les participants à la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, qui s'est clôturée ce dimanche en Égypte, ont finalement adopté un accord final. Il prévoit entre autres la création d'un fonds pour financer les dégâts climatiques subis par les pays particulièrement vulnérables. Cette décision, qualifiée d'historique par ses promoteurs, a été adoptée par consensus en assemblée plénière sous un tonnerre d'applaudissements. Pelé Kipelamondo nous en parle.
Mieux vaut peu que rien, c'est le moins que l'on puisse dire au vu de la moisson quelque peu moindre récoltée à la COP27 par les pays qui payent les lourds tributs du réchauffement climatique. Si l'accord final souligne les besoins immédiats des ressources financières nouvelles, supplémentaires, prévisibles et adéquates pour aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux impacts économiques et non économiques du changement climatique, il est loin de satisfaire la grande majorité des États qui se sont rendus au pays des pharaons avec des attentes pressantes. S'il se réjouit de cet accord final, le secrétaire général de l'ONU n'hésite cependant pas de les qualifier d'insuffisants. De toute évidence, cela ne suffira pas, mais c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée, affirme Antonio Guterres. Pour sa part, l'Union européenne s'est dit déçue par l'accord de Charles Michel. D'après le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, je le cite, « Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la Terre. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions. » Fin de citation. « On a gagné la bataille et non la guerre », indique de son côté Alpha Kaloga, l'un des délégués de l'Afrique à la COP27.
Parlons à présent de ces regroupements qui encadrent les personnes vivant avec handicap dans le Nord Kivu qui demandent au gouverneur de province une assistance particulière en faveur des déplacés vivant avec handicap. Ils ont présenté cette demande aux représentants du gouverneur jeudi à Goma à l'issue d'une marche pacifique qui a réuni quelques dizaines de personnes vivant avec handicap. Sylvain Obedi, activiste des droits de ces personnes, explique que la marche avait aussi pour but de déposer leur mémo pour demander au président de la République l'autonomisation de leur ministère. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
La demande que nous faisons, comme de tous nos autres frères et sœurs qui le font partout dans la République, nous sommes en train de demander la concrétisation de l'autonomisation de notre ministère. Donc, on n'aimerait pas que le président s'arrête en cours de chemin. Il a créé un ministère. On lui demande de continuer jusqu'au bout et d'autonomiser ce ministère-là à travers un secrétariat général. Ce que nous attendons du gouverneur, c'est de transmettre le message à Monsieur le Président de la République qui va décider pour ça. Et la deuxième chose, nous avons parlé sur les questions liées au déplacement. Il y a nos frères qui sont déplacés, qui sont à Kanyaruchinya. Et donc nous avons aussi suscité l'intérêt ou l'attention du gouverneur pour qu'il voie dans la mesure du possible comment est-ce qu'il peut assister nos frères et sœurs qui sont au milieu des déplacés aussi là-bas.
Autre nouvelle dans la province du Maniema, l'administrateur national de la dynamique des groupes des peuples autochtones, DGPA, se réjouit de la promulgation par le chef de l'État et la publication dans le journal officiel de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmées en RDC. Étant l'un des précurseurs ayant milité depuis plusieurs années afin que les peuples autochtones recouvrent leurs valeurs comme tout Congolais pasteur Mukubwa, Katsai Mputu Revocate parle de l'indépendance de cette catégorie de personnes. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Je suis dans une joie immense, une joie qui voit la concrétisation d'un travail de dur labeur que nous avons connu pendant presque 2 décennies. Cette loi, qui a été endossée par l'honorable Bukanga Ribin, élu de la ville de Kindu, est aujourd'hui promulguée par le chef de l'État depuis le 15 juillet de cette année et publiée au journal officiel le 14 du mois courant. C'est une loi qui montre à suffisance la grande protection, la grande de promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette protection et promotion est l'objet même de la création de mon organisation APDEMA, dont est l'objet de la création de la DGPA, dont nous sommes parmi les véritables géniteurs, et l'objectif même du REPALEF, encore une structure que nous sommes en train de diriger dans la province du Maniema. Pour nous, nous disons merci à tous ceux-là qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour que cette loi soit réellement une loi qui est déjà promulguée aujourd'hui par le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons déclarer ouvertement l'indépendance des peuples autochtones pygmées dans la République démocratique du Congo.
Commémoration de la Journée internationale de l'enfance, chaque 20 novembre, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF vient de lancer une série d'activités à Kinshasa. La première est la marche de santé qui a réuni hier samedi une cinquantaine d'enfants de la capitale et d'autres partenaires de l'UNICEF dont la division provinciale du genre, famille et enfants. Partie de la place des évolués, elle a connu son point de chute à Utex Africa en passant par le boulevard Tchatchi. Cette marche est une sensibilisation à la santé, au sport et aussi un plaidoyer et les enfants s'en sont réjouis comme nous le dit Fulbert Balolagué.
Exactement, car cette année, l'UNICEF a mis en place une stratégie de communication et de plaidoyer reliant l'organisation, les sports et l'enfance. Jean-Poncien Chibamba, coordonnateur national du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants, explique.
Pour cette année, à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant. Et donc, en RDC, on a travaillé à la promotion des droits de l'enfant à travers le sport. Le slogan qui a été retenu, un enfant, un droit, un sport. C'est là pour pouvoir voir que le sport, c'est pas seulement une gymnastique, mais c'est aussi un droit pour chaque enfant.
Tel un baptême, Consolation Atta a fait sa première marche à pied de quelques kilomètres et l'en sort heureuse.
C'est ma première fois de faire une marche, de faire des kilomètres en train de marcher. Je suis émue de joie et puis je me sens bien.
Ces autres enfants ont trouvé aussi du plaisir à marcher pour les droits de chaque enfant.
Je suis émue de joie de participer à cette marche pour aider à d'autres enfants d'imaginer un peu la journée du 20 novembre.
C'était bien, on s'est exercé, on s'est un peu fatigué, mais c'était bien au final. On est en forme.
Un peu fatigué vu qu'on a marché pendant longtemps et qu'il fait chaud, mais sinon ça va.
Jusqu'au 1er décembre, l'UNICEF prévoit d'autres activités.
Avant de passer à la page internationale, dans le Kassai oriental, l'Institut supérieur technique d'informatique a lancé samedi sur le marché de l'emploi 70 lauréats. La cérémonie de clôture de l'année académique s'est déroulée ce samedi au siège de cette institution supérieure en présence du conseiller du gouverneur de province. Georges Kabamba, directeur général de l'ISTIA, a indiqué qu'en dépit des problèmes qu'a connu cette institution, le calendrier académique a été respecté. Il a prodigué quelques conseils aux lauréats. Georges Kabamba, directeur général de l'ISTIA, s'exprime au micro de Esther Dalafina.
Vous avez consommé totalement le programme de matière imposé par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est à partir de maintenant que la société appréciera votre savoir-faire et votre être. Valorisez la formation que vous avez reçue. N'oubliez pas que vous courez le risque de devenir sous-qualifié volontaire au cas où vous n'enrichissez pas votre bagage intellectuel et scientifique par des lectures personnelles, des recherches et autres formations continues dans vos domaines respectifs. Rendez-vous utile car la société congolaise a besoin de votre apport pour son développement. Travaillez pour votre bien personnel et aussi pour le bien de toute la société. Vous y arriverez en respectant scrupuleusement le code d'éthique qui régit votre métier et la vie sociale.
Actualité internationale.
Le sommet des Nations Unies sur le climat, COP27, a approuvé dimanche la création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables frappées par les effets du réchauffement climatique. Les deux semaines des négociations ont été marquées par la crainte d'un effondrement du processus et par l'espoir d'une percée majeure dans la création d'un fonds pour les pertes et dommages climatiques. Les délégués ont applaudi après adoption du fonds au milieu de la nuit, après des jours de négociations marathon sur la proposition. Le vote a commencé dimanche en Guinée équatoriale pour la présidentielle et les législatives. Teodoro Biangema, président depuis 43 ans, étant assuré d'être réélu. Briguant un sixième mandat à 80 ans, Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son tout-puissant parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin regroupement aussi les municipales.
L'invité.
La RDC connaît actuellement la flambée du choléra, principalement dans les provinces du Haut-Katanga et le Lualaba, dans les zones minières et dans le Nord Kivu, dans les camps des déplacés. Quelle est la responsabilité de la population dans la lutte contre cette maladie? Docteur Placide Duello, directeur du programme d'élimination du choléra, nous en parle. Il est notre invité, il s'entretient avec Paul Matendo.
Placide Ouello, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous présentez le plan d'élimination du choléra en RDC d'ici 2030. Que comprend exactement ce plan ?
En fait, c'est un plan pour amener les pays à l'engagement que nous avons pris pour l'élimination du choléra à l'horizon 2030 et le contrôle des autres maladies diarrhéiques. C'est un plan qui va de 2023 à 2027. Or, 2030 n'est pas plus loin qu'avec nous et vous vous rappellerez que chaque pays a souscrit aux objectifs de développement durable dont l'échéance est 2030. C'est ainsi que ce plan nous amène dans le cadre de cet engagement pour l'élimination du choléra en RDC.
Quelle est la situation actuelle du choléra en RDC ?
Oui, la situation actuelle, nous connaissons des flambées de choléra dans des provinces comme le Haut-Katanga, qui est une province qui a été plus ou moins calme, mais depuis la 41e semaine, l'ICASI a commencé à notifier des cas de choléra, et même Lualaba, qui est une province minière, a notifié 38 cas de choléra dans la zone de santé de Bunkea. Donc ça c'est les flambées les plus récentes, mais nous connaissons également la situation dans le Nord Kivu. Il y a quelques cas qui ont été notifiés même dans les camps de déplacés de Kanyaruchira. Et même au niveau des sites Kivu, il y a la zone de santé de Fizi qui connaît aussi une augmentation des cas. Donc, pour la semaine 44, le pays a notifié 511 cas et 8 décès.
Alors, vous parlez de la flambée de cette maladie. Quelles sont exactement les raisons de cette flambée ?
Les déterminants du choléra sont multiples. Nous avons d'abord, en termes de l'eau, la disponibilité en eau potable. Vous savez que l'homme s'expose lorsqu'il boit de l'eau qui n'est pas traitée, qui pourrait avoir les vibrio cholérae. À ce moment-là, il peut développer la maladie. Mais il y a aussi les autres déterminants tels que l'assainissement du milieu. Ça fait que l'hygiène, en termes d'hygiène aussi, une personne qui n'a pas de bonnes mesures d'hygiène autour d'elle peut facilement, lorsqu'il mange sans se laver les mains, il peut manger les aliments contaminés ou que les mouches se sont posées sur ces aliments. Lorsqu'il mange ou boit des liquides qui sont contaminés, l'homme s'expose. Et donc ça fait que parmi les grands déterminants de la maladie, il y a les mesures d'hygiène pour lesquelles on doit renforcer la disponibilité en eau, pour lesquelles on doit renforcer et aussi l'assainissement des milieux, sans lesquels on continuera toujours à voir ces flambées de choléra. Souvent on impute la santé parfois à tort, et même on peut inviter les ministres de la santé pour répondre des cas de choléra, alors que les autres secteurs parfois on ne les interpelle pas pour ce qu'ils doivent faire comme responsabilité dans les secteurs respectifs.
Selon le plan que vous présentez, quelle est la responsabilité de la population dans la lutte contre cette maladie ?
Oui, la population a une grande responsabilité parce que tout ce que nous faisons comme approche, comme stratégie, comme plan, la finalité c'est que c'est la communauté, chaque communauté qui doit s'engager pour mettre en place les mesures d'hygiène. Même quand on aménage les sources d'eau, c'est la communauté qui doit gérer cette source d'eau-là de manière convenable pour que la source d'eau ne devienne pas la source de la maladie. Parce que lorsqu'ils font, par exemple, les sels, la défécation autour des sources d'eau, ou que quand ils font les sels dans l'eau, sachez qu'il y a une autre personne qui prend la même eau en bas et qui peut se contaminer de choléra. Donc la communauté doit essayer de changer les comportements et faire en sorte que chacun de nous prenne en place les mesures d'hygiène, le lavage des mains avant de manger, être sûr avant de boire de l'eau, être sûr que c'est de l'eau qui est traitée.
Placide Ouello, merci.
Merci.